Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles pour Ici l'Europe, une émission proposée par France 24 et Radio France Internationale. L'été a été chaud, la rentrée européenne s'annonce mouvementée avec une Italie en plein changement gouvernemental des institutions. Parlement et maintenant Commission européenne entièrement renouvelée. Et bien sûr, le feuilleton interminable du Brexit. Le bras de fer entre le nouveau Premier ministre Boris Johnson et son Parlement a atteint des sommets inégalés. Nous évoquerons tous ces sujets avec notre grande invitée du jour, Nathalie Loiseau. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes aujourd'hui eurodéputée du nouveau groupe 1, centriste Renew Europe. Vous avez été, je le rappelle, ministre des Affaires européennes de 2017 à 2019, avant de mener la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes. Alors, vers une seconde place, à 22% contre 23% pour le Rassemblement national. Dans l'hémicycle, vous dirigez d'ailleurs la sous-commission sécurité et défense. Alors, première question tout de même relative au Brexit. Ouais. Boris Johnson, qui a fait ce geste assez spectaculaire de suspendre pour 5 semaines son Parlement. Est-ce que ça se fait ?
Écoutez, c'est un déni de démocratie. Vous parlez à une parlementaire. Je ne peux pas comprendre qu'à un moment aussi historique pour le Royaume-Uni, un Premier ministre considère qu'il ne veut pas entendre ce que le Parlement a à dire. D'ailleurs, il s'est tiré dans le pied puisque le Parlement britannique, les communes, sont en pleine ébullition. On le voit avec le fait qu'il a perdu sa majorité. On le voit avec le fait que une majorité de députés exige de pouvoir reprendre la main. Moi, je me souviens d'un des slogans du Brexit qui était « redonner le contrôle à Westminster ». Quand un Brexiteur se met à faire le contraire, on est en fait dans le populisme près de chez vous. On dit une chose, on fait le contraire. On a l'impression que ce qui compte pour Boris Johnson, c'est reprendre le contrôle, lui, de Downing Street. Mais sur le Brexit, on est nulle part.
Alors, des défections d'ailleurs dans ses propres rangs conservateurs. Un Parlement, vous l'avez dit, qui se rebelle contre l'exécutif, c'est assez inédit. Pour vous, est-ce que Boris Johnson est à proprement parler un populiste ?
Écoutez, souvenons-nous de la campagne de 2016, la campagne du référendum. Le nombre de mensonges, d'approximations qui ont été servis aux électeurs britanniques pour les inciter à voter en faveur du départ de l'Union européenne. C'est quand même le propre d'une forme de populisme. Ça veut dire que le populisme, d'ailleurs, il n'est pas réservé aux partis extrémistes. Et on doit avoir les yeux bien ouverts pour se rendre compte que c'est un danger pour nos démocraties, puisque à peine au pouvoir, le populisme se met à contester, en général, les représentants élus.
Alors, justement, Boris Johnson est retourné à la table des négociations, dit-il, de bonne foi. Simplement, il y a eu des fuites quand même dans la presse. Son stratège, Dominique Cummings, aurait parlé de mascarade, lui. Est-ce que vous croyez d'abord à des négociations de bonne foi, une reprise de ces négociations sous Johnson et couronnée de succès ?
Alors, notre rôle, notre responsabilité vis-à-vis du peuple britannique, c'est de travailler avec les autorités britanniques et d'essayer de trouver un accord. C'est ce que fait Michel Barnier, avec bonne foi, ça je peux en attester. Ce que je constate, c'est que aussi bien Angela Merkel qu'Emmanuel Macron, quand ils ont vu enfin Boris Johnson après un mois de perdu, lui ont dit, si vous avez des propositions crédibles et acceptable pour l'Union européenne, faites-les. Et ce que je constate au moment où nous parlons, c'est qu'il n'y a aucune proposition britannique. Comme d'habitude, depuis 3 ans, nous savons à peu près ce que les Britanniques ne veulent pas. Nous ne savons toujours pas ce qu'ils veulent.
Alors, est-ce que, du coup, l'Union européenne serait d'accord pour prolonger à l'unanimité des 27 à nouveau la date butoir du Brexit? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Nous avons toujours dit que nous prolongerions, d'une part si ça nous était demandé, et pour prolonger, il faut qu'il y ait un élément nouveau. Nous attendons avec beaucoup de respect pour la démocratie britannique, beaucoup de patience, et nous la devons au peuple britannique, qu'il se décide. mais
avec des élections législatives anticipées, par exemple,
les éléments sont sur la table. On a discuté de tout depuis 2 ans, 13 en détail, et on a discuté du départ du Royaume-Uni, même pas encore de la relation future. Si, par exemple, les Britanniques nous disent « nous avons besoin d'un peu de temps pour avoir une position différente sur la relation future, sur la déclaration politique sur laquelle Theresa May et Michel Barnier et les 27 s'étaient mis d'accord », qu'ils nous le disent, mais que ce soit précis.
Mais des législatives anticipées au Royaume-Uni, ça réglerait d'ailleurs peut-être pas ce mélodrame permanent du Brexit.
Ça, c'est un choix à faire par les Britanniques. Et là-dessus, nous n'avons rien de particulier à dire. Si les Britanniques veulent des législatives anticipées, c'est vraiment à eux d'en décider. Et d'ailleurs, sur l'ensemble du processus, c'est le Royaume-Uni qui a choisi de sortir. Ça n'est pas l'Union européenne qui l'a mis dehors. Et honnêtement, pour nous, il n'y aura jamais de bon Brexit. Parce que le Brexit en lui-même est une mauvaise nouvelle pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne.
Alors, beaucoup de bruit aussi du côté de l'Italie, avec un gouvernement Giuseppe Conte II, hein, qui est mis sur les rails, avec un mariage improbable entre les 5 étoiles anti-système, qui détestaient au préalable le Parti démocrate, mais qui vont donc s'allier. Ça écarte le danger, effectivement, de l'extrême droite de la Ligue de Matteo Salvini au pouvoir rapidement, mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'UE?
D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire un mariage improbable. Qu'est-ce qu'il y avait de plus improbable que la coalition précédente entre les 5 étoiles et la Ligue ? Un électeur des 5 étoiles n'avait pas choisi, en se rendant aux urnes, de se retrouver avec Matteo Salvini au gouvernement. Et inversement, aujourd'hui, vous avez effectivement un parti anti-système qui se situe plutôt à gauche de l'échiquier politique, qui s'allie avec le Parti
démocrate. Vous les voyez à gauche ?
C'est très compliqué.
Sur l'immigration, c'est compliqué.
Et c'est très compliqué, et on verra chemin faisant. Mais en tout cas, les uns et les autres ont conscience ensemble du danger de l'extrême droite, et ils ont vu ensemble ce qui s'était passé depuis l'année dernière. Ils se sont réunis, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à l'extrémisme. Il n'y a pas ce rouleau compresseur qu'on a voulu nous décrire, notamment pendant la campagne des européennes. Souvenez-vous de Salvini ou de Madame Le Pen nous disant « les Européens riront moins quand il y aura des commissaires nationalistes à la Commission ». Nous savons maintenant que le candidat du nouveau gouvernement italien pour être commissaire… Se nomme Paolo Gentiloni, membre du Parti démocrate, ancien président du Conseil italien, un pro-européen convaincu. Donc, entre les tirades bravaches de la campagne et la réalité de l'Europe, il y a un pas, heureusement, et oui, c'est une bonne nouvelle de retrouver l'Italie.
Il y a un pas parce que le gouvernement est en train de changer. Alors, là, il y a quand même une question d'obligation de résultat, parce que, en effet, Matteo Salvini avait prévu de faire table rase de la précédente coalition pour lui-même, à l'occasion d'élections anticipées, s'installer au pouvoir. Ces élections anticipées, cette fragilité de la coalition nouvelle, elle est toujours une perspective réaliste. Donc, il y a une obligation de résultat parce que il peut aussi revenir au pouvoir assez vite.
Mais tous les gouvernements ont une obligation de résultat toujours et tout le temps. Mais lui aussi, il a un bilan, Matteo Salvini. Il part à un moment où l'Italie est en récession, où le chômage continue à augmenter, où la dette italienne est partie à des niveaux sans précédent. Il doit aussi être comptable de l'état dans lequel il laisse l'Italie.
Alors, la politique migratoire, c'est quand même ce qui sépare ces deux partis très fortement, puisque le Parti démocrate veut être plus souple dans son application. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a bien demandé une réforme du règlement de Dublin à peine nommé, et pour lui c'est très important qu'on ne renvoie pas au premier pays d'arrivée, à savoir l'Italie en l'occurrence, les migrants. Là, on a bien vu que le reste de ses partenaires européens est très, très réticent sur cette question-là. La France, y compris, est-ce qu'il va obtenir gain de cause ?
Moi, je me souviens de Giuseppe Conte, l'année dernière, au Conseil européen de juin 2018, qui avait été consacré largement à la question migratoire. Et Giuseppe Conte s'était mis d'accord avec les autres Européens pour une politique migratoire à plusieurs levier, à la fois le travail dans les pays d'origine des migrations, le travail avec les pays de transit, et ce qu'on faisait au niveau européen, avec notamment l'idée d'avoir des centres d'examen des demandes sur le territoire européen qui soient contrôlés. Tout cela, il l'avait validé. Juste après, Matteo Salvini avait fermé les ports italiens et avait en réalité déclenché une crise politique autour de la migration. Nous serons évidemment très attentifs aux préoccupations des Italiens et on peut tous dire qu'il y a eu une cécité collective sur le poids que supportait l'Italie d'être pays de première entrée. Donc nécessité de responsabilité et de solidarité.
Ça va changer, ça, vraiment, évidemment. Sous un gouvernement qu'on dit voilà, qui est plus auquel l'Europe est plus favorable, finalement.
En tout cas, il y a sur la table énormément de choses. Le renforcement de Frontex, indispensable. Je pense que l'Italie y sera favorable. La nécessité, bien sûr, de revoir Dublin pour à la fois être davantage solidaire des pays de première entrée, mais pas laisser non plus ces pays considérer qu'ils n'ont aucune forme de responsabilité et qu'un migrant clandestin arrivant sur leur sol peut aller n'importe où dans l'Union européenne.
Alors, grosse évidemment aussi actualité de cette rentrée, le casting européen qui change du tout au tout. Non seulement votre Parlement a changé de visage, mais la Commission européenne tout entière, et en particulier les nominations sont allées bon train, un petit peu retardataire tout de même. La France a finalement désigné Sylvie Goulard pour future commissaire européenne, une europhile, mais sa candidature pose un certain nombre de questions. Regarde tout de suite ce reportage signé Théa Bazdarevitch.
C'est une fidèle d'Emmanuel Macron, seule femme à avoir dirigé un ministère régalien au début de son quinquennat en juin 2017. Un passage éclair, mise en cause dans une affaire d'emploi fictif du MoDem au Parlement européen, Sylvie Goulard démissionne un mois après sa nomination et entraîne un remaniement ministériel. 7 mois plus tard, elle revient au poste prestigieux de sous-gouverneur à la Banque de France, qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Énarque de formation, Sylvie Goulard est une europhile convaincue. Elle démarre sa carrière au Quai d'Orsay dans l'équipe chargée du dossier de la réunification de l'Allemagne. En 2009, elle est élue députée européenne, un poste qu'elle occupera 8 ans. Polyglotte, elle parle couramment l'anglais, l'allemand et l'italien. Un CV qui a incité Emmanuel Macron à proposer son ancienne ministre au poste de commissaire européenne, malgré une enquête judiciaire en cours. Mais cela ne devrait pas l'empêcher de succéder à Pierre Moscovici, actuel commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, pressenti pour être le futur président de la Cour des comptes en France. Sylvie Goulard doit maintenant rencontrer la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant d'être auditionnée par les députés européens dans les prochaines semaines.
Voilà, c'est une candidature en effet prestigieuse par rapport au parcours de Sylvie Goulard, mais problématique peut-être pour son audition future au Parlement européen. Est-ce que c'est un bon choix ?
Alors c'est un excellent choix, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté parce qu'elle a une légitimité sur les questions européennes extrêmement forte. C'est quelqu'un, comme le reportage l'a rappelé, qui a fait une très grande partie de sa carrière, mais qui a un engagement personnel sur les questions européennes très fort. Elle a une image extrêmement forte et positive en Allemagne, en Italie, ici au Parlement européen, où c'était une parlementaire européenne respectée.
Alors justement, elle va subir une audition, un grand oral au Parlement européen, précisément dans quelques jours. Et pour cela, elle devra convaincre, par exemple, qu'elle a mis derrière elle la question des assistants parlementaires du MoDem qui étaient rémunérés sur des contrats européens. Ça, c'est une première question. Voilà, il y a une deuxième question sur sa rémunération par un think tank plutôt pro-américain. Est-ce que tout ça ne pose pas problème?
Alors, sur la question des emplois fictifs, le Parlement européen lui-même a blanchi Sylvie Goulard. Sylvie Goulard sera certainement interrogée pendant son audition et je lui fais toute confiance pour avoir tous les éléments pour prouver sa bonne foi. Elle a quitté le gouvernement d'Emmanuel Macron un mois après y être entrée en 2017 avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de courage pour être libre de prouver sa bonne foi. Sa bonne foi, elle est prouvée aujourd'hui, donc l'audition lui permettra de s'en expliquer. Sur la question du think tank américain, je voudrais rappeler, contrairement à ce qui est écrit ici ou là, que Sylvie Goulard ne s'en est jamais cachée, qu'elle a toujours indiqué dans sa déclaration d'intérêt en tant que parlementaire européenne qu'elle touchait une rémunération d'un think tank dans lequel...
Si ça n'est pas illégal, mais est-ce que vous dites que moralement, maintenant, il faut que les députés européens réfléchissent un peu mieux à ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils n'acceptent pas?
Alors, d'abord, vous l'avez rappelé, c'est légal. Sylvie Goulard n'a commis aucune irrégularité. Ensuite, aujourd'hui, la délégation à laquelle j'appartiens, la liste que j'ai eu l'honneur de conduire, nous avons tous pris un engagement de n'avoir aucune activité rémunérée en parallèle à notre activité de député européen qui puisse poser question par rapport à l'intérêt général. Nous le devons évidemment à nos électeurs. Mais je ne voudrais pas non plus qu'il y ait une espèce de concours de beauté morale qui consiste à reprocher à une personnalité d'avoir fait quelque chose de parfaitement légal. Est-ce que d'autres l'auraient fait ou ne l'auraient pas fait? Après tout, chacun en conscience prend ses décisions. Mais je le rappelle, Sylvie Goulard ne s'est jamais éloignée de la légalité.
Alors la commission de Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs va être très paritaire hein, par rapport à ses prédécesseurs, c'est intéressant quand même de voir qu'il y aura beaucoup plus de femmes. Cette commission, néanmoins, est-ce qu'elle va être bien élue?
Des fortes personnalités crédibles, comme Ursula von der Leyen, comme Sylvie Goulard, comme d'autres, rejoignent cette commission. Alors, est-ce que ça sera facile? Non, parce que les enjeux devant lesquels nous sommes ne sont pas faciles, mais nous avons besoin d'une commission qui ait pleinement conscience de l'ampleur des réformes à mettre en avant et des attentes des électeurs européens.
Moi, je ne voudrais élu pas dans un fauteuil, pas dans un fauteuil.
Écoutez, je voudrais
qu'on pose la question de la majorité
tous,
ou pas.
Et notamment les députés européens que nous sommes, qu'on n'a jamais eu autant de participation des électeurs aux élections européennes, notamment de participation des jeunes. Ça veut dire que nous avons une lourde responsabilité, c'est de répondre aux attentes de nos concitoyens.
Et de contrôler la Commission.
Et de contrôler la Commission. L'objectif, c'est de la contrôler, mais ça n'est pas non plus d'avoir une hostilité systématique entre institutions européennes, comme je l'entends parfois. Moi, j'ai siégé au Conseil, je siège maintenant au Parlement européen. Mon objectif, c'est pas la rivalité institutionnelle, c'est d'avancer, parce que le monde avance vite. Et l'Europe ne peut pas prendre de retard.
Alors, est-ce que vous regrettez, Nathalie Loiseau, maintenant, donc, vous avez pris un peu de recul, votre propre rentrée parlementaire en juin, ou à l'occasion d'un off malheureux, où vous aviez critiqué un certain nombre de collègues parlementaires, précisément, vous avez loupé le coche, peut-être, de la présidence du groupe Renew Europe, ou peut-être ça vous a privé d'un certain nombre de commissions. Comment vous revoyez les choses?
Écoutez, d'abord, j'ai pas tendance à regarder derrière, mais plutôt à regarder devant. Ça sert à rien d'avoir des regrets. J'ai eu la surprise de voir que effectivement un off pouvait se retrouver publié avec un biais en plus, qui m'a lui aussi surpris. Après, qu'est-ce que je constate ? Nous sommes la première délégation du nouveau groupe Renew Europe, qui lui-même est devenu un troisième groupe incontournable au sein du Parlement européen, sans lequel aucune majorité ne peut se faire. Le président du groupe, Dacian Ciolo, c'est quelqu'un pour qui j'ai non seulement de l'amitié, mais beaucoup de respect, que je soutiens avec beaucoup de plaisir. Et contrairement à ce que vous disiez, nous
Dacian
avons plutôt
Ciolo, oui.
Plus de commissions parce que la France n'a pas pris la présidence de groupe que si je l'avais prise. Si j'avais été présidente du groupe Renew, il y aurait eu moins de Français à des postes de responsabilité dans les commissions du Parlement européen. Pascal Canfin est aujourd'hui président de la commission de l'environnement. C'est une excellente nouvelle pour la transition écologique qu'il faut absolument que l'Europe fasse vite et bien, plus vite et mieux que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Je suis en charge de la sécurité et de la défense, un enjeu dont nos compatriotes nous ont dit à quel point il était important. Nous sommes là pour pouvoir faire la différence. Nous sommes là pour travailler, pas pour avoir des casques à plumes ou des galons sur nos épaulettes. Nous sommes là pour répondre aux préoccupations des Français.
Merci Nathalie Loiseau d'avoir été notre invitée sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes pour plus d'informations.